Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
La France se déconfine à grande vitesse et dans le brouhaha qui va avec, en partie, il y a des voix que l'on entend plus difficilement, peut-être notamment celle des évêques. Monseigneur de Moulins-Beaufort, président des évêques de France, a ainsi adressé il y a peu une lettre au président de la République. Une réflexion personnelle et quelques conseils de sagesse au sortir de cette parenthèse si étrange. Alors, pour faire écho à cette lettre et nous aider à ne pas oublier trop vite les leçons de l'histoire, si l'on peut dire, cette émission, la parole aux évêques. Déconfinement, la parole aux évêques, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Avec nous, pour nous en parler, Monseigneur Bernard Ginoux, vous êtes évêque de Montauban, bonjour.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
Et Monseigneur Jean-Marc Echenne, qui est évêque de Pamiers et qui va nous rejoindre dans quelques instants, puisque pour l'instant on a un petit problème technique. Alors on va commencer avec vous, Monseigneur Ginoux. On a essayé quand même, je le dis aux auditeurs, d'avoir Monseigneur de Moulins-Beaufort ou quelqu'un qui puisse parler en son nom pour faire écho à cette lettre. Si ça vous embête pas, on va en parler un tout petit peu au début de l'émission et puis de cette assemblée plénière que vous avez eue. Donc entre évêques, c'était, j'ai cru comprendre, par visioconférence pour une bonne partie d'entre vous. Voilà, donc des 120 évêques, certains étaient à Paris et au Sacré-Cœur. On pouvait lire dans la presse un certain nombre de choses, et entre autres des extraits du discours de clôture de Monseigneur de Moulins-Beaufort. J'en citerai un pour en introduction de cette émission. La liberté de l'Église n'incite pas l'Église du Christ à réclamer pour elle des privilèges. Elle est avant tout la revendication de la liberté de vivre l'amour de Dieu et l'amour du prochain, de servir tout être humain. Et je pourrais continuer. Qu'est-ce que vous retenez, Monseigneur Ginoux, de cette assemblée plénière et de ce discours de clôture du président de la Conférence d'évêques de France?
Eh bien, d'abord, la nouveauté. C'est la première fois que, depuis 13 ans que je suis évêque, que nous vivons une visioconférence à tous les évêques, enfin presque tous, et que nous nous voyons par écran interposé, nous nous entendons, enfin parfois il y a quelques pas de défaillances techniques, mais bon, ça c'est plus prévu, et puis nous échangeons d'une certaine manière, qui est plus réservée, qui est plus discrète, et surtout, s'il y a un manque, c'est celui des rencontres dans les couloirs, dans les repas, au café, toutes les rencontres que nous avons avec les uns et les autres, fraternellement, parfois pour discuter un peu plus âprement, mais c'est cela qui m'a le plus manqué. En revanche, nous avons gagné beaucoup de temps, d'énergie, nos véhicules n'ont pas circulé, etc. C'est un moyen heureux dans la circonstance de pouvoir se réunir, travailler un certain nombre de questions. Et Monseigneur de Moulins-Beaufort, en conclusion, a donné un discours fort, rappelant effectivement la liberté de l'homme. Et nous savons que la liberté religieuse, le droit à la liberté religieuse, qui a été longuement évoqué par le Concile, mais aussi par Saint Jean-Paul II, face au pays de l'Est, c'est ce qu'il revendiquait comme le droit humain premier. L'homme exprimant ainsi ce qui est le plus intime à lui-même, le plus intérieur, si l'État, la République est laïque, la société n'a pas à l'être. Donc il ne faut pas confondre les plans. Et Mgr Moulins-Beaufort a beaucoup insisté sur la liberté de l'Église. La liberté, une liberté ecclésiale, la liberté d'une Église qui est libre.
Alors,
c'est ça notre demande de reconnaissance.
Mgr Ginoux, avant qu'on...
l'écrira dans « Le matin, sème ton grain ».
Alors, on va y revenir. On va y revenir, Monseigneur Ginoux. Oui, on va y revenir. Je voulais, avant qu'on plonge un tout petit peu dans cette lettre, avant qu'on ait, on va dire, votre écho post-confinement, que vous nous parliez de cette prière qui a été faite donc par les évêques. Semble-t-il, vous êtes tous unis, même si vous n'étiez pas sur place. On a vu la photo donc de quelques-uns d'entre vous sur les marches du Sacré-Cœur pour confier la France à Dieu et même confier la France au Sacré-Cœur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette démarche qui a eu lieu?
Au cours du confinement, et surtout face à la maladie, face à l'épidémie, un certain nombre de personnes demandaient qu'on fasse une consécration de la France au Sacré-Cœur. Des diocèses ont pu le faire de leur côté. Certains ont renouvelé aussi une consécration à la Vierge Marie. Bref, il y a eu un certain nombre d'initiatives. Et pour rassembler tout cela, la conférence épiscopale, enfin c'est-à-dire le conseil permanent, ce sont les évêques, Mgr Echen qui va parler tout à l'heure en fait partie, les évêques qui sont censés écouter et prendre des décisions qui s'imposent, ont décidé que le 8 juin au soir, c'est-à-dire le premier jour de l'assemblée plénière par visioconférence, ils se retrouveraient pour une veillée de prière et une messe au Sacré-Cœur, que nous pourrions suivre, nous qui étions en province, sur KTO, qui était retransmis en direct, et au cours de cette liturgie, il y aurait une prière au Sacré-Cœur. Donc, il y a eu la composition de cette prière. Nous avons, à l'Assemblée plénière, apporté telle ou telle modification ou remarque, mais c'était sans très grande importance. Donc, cette prière signifiait que, devant la difficulté, devant l'épidémie, nous nous remettions au Seigneur, nous le prions de nous prendre pitié, mais en pitié au sens de veiller sur nous, et puis également nous rendions grâce pour les biens que nous recevons de lui. L'aspect positif de la prière, c'est l'action de grâce, ce que le Seigneur fait pour nous, et ce qu'il fera encore dans la mesure où nous lui faisons confiance.
Alors je vais lire un extrait, je vais lire un extrait, si vous permettez, sois béni pour la prière. Je fais signe à la régie. Je dis que je vais lire un extrait. Sois béni pour la prière que ton esprit a maintenue vivante, alors que ceux qui croient en toi ne pouvaient se rassembler pour te célébrer. Sois béni pour les multiples gestes fraternels à l'égard des plus démunis et pour les dévouements des soignants. Sois béni pour l'accompagnement des malades et le soutien aux familles éprouvées. C'était donc tout à la fois une manière de se confier à Dieu et de rendre grâce. Alors si on plonge un petit peu dans cette lettre donc, qui a été adressée à Emmanuel Macron par le président de la Conférence des évêques de France. Donc elle a été rendue publique début juin et adressée fin mai. Il y a beaucoup de choses. Il y a un premier point qui rejoint, semble-t-il, la réflexion que vous vouliez nous partager ce matin. Je lis un extrait. « L'État court toujours le risque de ne pas prendre les citoyens pour des personnes responsables », dit Mgr de Moulin-Beaufort dans cette lettre. Vous, Mgr Ginoux, semble-t-il, ce qui vous a frappé, c'est que l'État aurait eu tendance à trop intervenir dans la vie des gens à l'occasion de ce temps de confinement. Est-ce que vous avez des exemples qui vous ont frappé?
Eh bien, oui. Par exemple, là où il était dit recommandé, on a eu la traduction obligatoire. Dans certains lieux, les masques sont recommandés. Mais localement, les personnes ont décidé que c'était obligatoire. Les églises devaient rester ouvertes. Je m'appuie sur les textes du mois de mars qui ont été publiés à ce moment-là, à partir du 23 mars, sur l'entretien que j'ai eu avec la préfecture très clairement au moment du confinement, et du préfet lui-même, j'ai entendu, bien sûr, il est évident que vos églises restent ouvertes. Vous voyez, et ça tout le temps du confinement. Donc, mais en même temps, il y a eu des interprétations qui n'étaient pas très justes à cet égard. Quand le Conseil d'État a rétabli la liberté des cultes, il a aussi interdit les drones qui étaient prévus pour la surveillance dans les rues, au moins dans les grandes villes, dont Paris. C'est quand même assez pénible de savoir qu'on peut être surveillé dans les rues. Donc il y a eu quand même une tendance à la mainmise de l'État sur la vie privée des citoyens et sur une sorte d'obligation de vivre d'une certaine manière. Or, de la même manière que on nous a dit que pour les célébrations de funérailles qui avaient lieu dans les églises, il ne fallait pas que ça dépasse 20 minutes. Mais l'État n'a pas à se mêler de la durée d'une célébration. Ce n'est pas son rôle. Ou alors, il dirige l'Église. Ça ne va plus. Donc, vous voyez, la loi de séparation de l'Église et de l'État est faite pour que chacun soit dans son domaine.
Monseigneur Jean-Marc Echen, vous êtes avec nous. Donc, je vous dis bonjour. On vous a récupéré. Tant mieux. Bonjour.
Oui, bonjour.
On faisait écho donc, avec Monseigneur Bernard Ginoux fort rapidement donc, à la dernière assemblée plénière des évêques qui s'est tenue donc, de manière un peu particulière puisque quelques-uns donc, étaient au Sacré-Cœur et d'autres en visioconférence comme nous l'a expliqué Monseigneur Ginoux. Et puis maintenant, on parle un petit peu de cette lettre et je vous demande, vous, quel écho elle a pu trouver ou quel est votre regard sur cette période si particulière du confinement et du déconfinement. Il y a un autre passage qui rejoint vous, ce que vous vouliez souligner. Monseigneur de Moulin-Beaufort parle de ce temps suspendu qui a été celui du confinement à rebours de l'accélération constante du temps le président de la conférence des évêques de France suggérant de garder comme fruit de cette expérience de mettre en place un vrai repos dominical. Vous, ce qui vous a frappé, c'est qu'on aurait tous été convoqués à un autre mode de vie. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Alors, c'est vrai que ce mode de vie a été induit par ce à quoi faisait allusion mon frère Bernard Gimoux, donc des restrictions de liberté qui nous ont contraints à rester chez nous, à être confinés, et en quelque sorte à abandonner un certain nombre de nos activités, de nos rendez-vous, peut-être à laisser de côté nos vies trop agitées pour être dans un espace contraint, et puis pour aussi peut-être cultiver plus sérieusement notre intériorité. Il y avait parmi les émissions assez riches, développées aussi sur des chaînes de radio, je pense à une émission très intéressante de France Culture dans le cadre de la Grande Table des Idées, reprenant la pensée d'un auteur, Tom Hodgkinson, qui développe une réflexion autour de l'oisiveté et qui semble dire c'est l'oisiveté qui sauvera notre monde. Alors ça peut rejoindre des propositions de la conférence pour le climat, par exemple, est-ce que c'est raisonnable de travailler toujours plus longtemps? Est-ce qu'il ne serait pas raisonnable, comme semble y faire allusion Monseigneur de Moulin-Beaufort, raisonnable de préserver des espaces où justement nous sortons de cette logique d'activité, de productivisme, de consommation, pour s'adonner à la qualité de la relation? Il y a une thématique qu'il aborde aussi très fortement dans sa lettre, c'est celle de l'hospitalité. Il dit il résultera de ce temps qu'une figure de l'humanité accomplie est celle de l'hospitalité mutuelle. Alors évidemment, c'est un peu paradoxal de découvrir pendant un temps de confinement, nous ne pouvons pas être hospitaliers parce que nous ne pouvons pas ouvrir notre porte, que l'hospitalité est une valeur fondamentale.
Est-ce que vous pouvez expliciter, ce qu'il entendait par hospitalité? Parce que c'est un thème qu'il développe beaucoup dans sa lettre, avant de dire quel est votre sentiment sur ce sujet.
Oui, c'est le quatrième thème qu'il développe. Et donc c'est l'hospitalité au sens le multiple du terme, l'hospitalité pour accueillir Dieu dans la vie spirituelle, pour accueillir l'autre dans la charité, pour accueillir aussi les personnes qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'une autre culture. On peut penser aux migrants, mais les personnes qui viennent d'ailleurs, c'est parfois tout simplement notre voisin qui ne pense pas comme nous, qui ne réagit pas comme nous, mais sur lequel nous devons essayer d'être ouvert pour vivre en communion. Donc, derrière le mot hospitalité, il y a le mot communion, il y a cet idéal d'une humanité unie dans la fraternité au nom du Christ, parce que nous sommes enfants d'un même Père avec lui et dans l'Esprit. Donc c'est cette notion-là. Alors c'est vrai que pour vivre l'hospitalité, quand quelqu'un frappe à la porte, il ne faut pas être stressé par son agenda, parce que c'est une visite imprévue. Donc on va peut-être renoncer à un certain nombre de choses, comme on y a renoncé pendant ce temps de pandémie, pour être sur des choses peut-être plus essentielles, et l'hospitalité en est une.
Je reviens aussi au repos dominical, parce que ça m'a frappé dans cette lettre, je suggère sans doute en un rêve éveillé, donc dit Monseigneur de Moulin-Beaufort, qu'une fois par mois, un dimanche soit confiné partout dans notre pays. Cette lettre, donc on peut la retrouver, elle est publiée donc aux éditions Bayard, MAM et Auxerre. Le matin, sème ton grain, lettre en réponse à l'invitation du Président de la République. On fait une première pause et puis on va continuer donc d'être accompagné par vous deux, Monseigneur Bernard Gimoux, évêque de Montauban, et Monseigneur Jean-Marc Echen, évêque de Pamiers, pour rentrer dans des conseils, on va dire, encore moins en lien peut-être avec l'actualité, des conseils de sagesse que l'on peut garder afin de ne pas se déconfiner trop rapidement.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Déconfinement, la parole aux évêques, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour ceux qui nous rejoindraient, nous sommes avec Monseigneur Bernard Ginoux, évêque de Montauban, et Monseigneur Jean-Marc Echène, évêque de Pamiers. Monseigneur Bernard Ginoux, le ton, semble-t-il, de la lettre donc, du président de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Nemoulin-Beaufort, cette lettre adressée donc, pour rappel au président de la République, était, dit-on, très personnelle, et donc le fruit de réflexions et de ce qu'on peut, enfin de ce qu'il a lui-même probablement vécu à l'occasion de ce temps de confinement. Avant que vous nous disiez, vous, quel est on va dire, le conseil de sagesse que vous auriez envie de partager aux auditeurs au sortir de ce temps si particulier, est-ce que vous pouvez nous dire la manière dont vous avez vécu ce temps de confinement, cette retraite ?
Auparavant, un petit mot sur ce qu'on disait tout à l'heure, ce que vous disiez avec Mgr Echène, à propos du jour de repos. Le pape Saint Jean-Paul II a écrit une lettre sur le jour du Seigneur, le dimanche. Il y a eu des livres qui ont été écrits aussi là-dessus. Les chrétiens devraient être les premiers dans la société à s'imposer ce repos dominical, puisque c'est le jour du Seigneur. Et il y aurait quelque chose à reprendre dans ce sens-là vis-à-vis de nos activités, que l'on soit patron chrétien, que l'on soit salarié, parce qu'il y a une très forte pression dans la société actuelle pour que les gens travaillent le dimanche. Voilà. Sous prétexte de choisir son jour de liberté, diverses choses, mais je suis un farouche partisan du repos dominical pour la société, pour le convivial, pour la rencontre, pour l'hospitalité, etc. Voilà. Vous me disiez comment j'ai vécu ce confinement. Eh bien, d'abord, comme un temps spirituel, puisqu'en plus nous étions dans le carême, puis le temps pascal. Ensuite, en prenant contact par téléphone ou par mail avec les prêtres et les communautés religieuses, grâce à Dieu, le diocèse de Montauban, enfin le département du Tarn-et-Garonne, n'a pas été touché par la pandémie. Il y a eu quelques cas, 3 ou 4 de personnes décédées avec le virus, mais qui ne sont pas mortes de cela parce qu'elles étaient déjà atteintes d'autres maux, d'autres pathologies. Donc je l'ai vécu comme un temps d'intériorité. Mon cher confrère et frère Jean-Marc Echène disait que c'était aussi redécouvrir une autre mode de vie, parce qu'un autre mode de vie sans rendez-vous urgent, sans précipitation, même le téléphone se tarissait, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de suite après nos appels téléphoniques. Donc prendre des nouvelles des confrères, des prêtres, prendre des nouvelles des communautés religieuses, et puis également, si c'était nécessaire, je pouvais me déplacer, mais je ne l'ai pratiquement pas fait, parce que ce n'était pas indispensable et qu'il fallait être solidaire des autres. Alors, j'ai vécu aussi comme un temps plus favorable pour la lecture, l'oraison, et aussi pour penser aux autres. Finalement,
alors justement, monseigneur Bernard Ginoux, qu'est-ce qui...
On est plus proche des autres quand on a la possibilité d'entrer dans un silence intérieur pour les porter dans notre pensée, dans notre prière.
Alors justement, qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui est... Monseigneur.
Tout à fait.
Alors justement, monseigneur, si vous permettez, vous m'entendez, monseigneur ?
Il y a aussi cette proximité intérieure de se rappeler que comme évêque, on a la charge de tout un diocèse.
Monseigneur Bernard Ginoux, vous m'entendez ou pas ?
Allô ?
Oui, monseigneur Bernard Ginoux, vous m'entendez ou pas ?
Là, je vous entends.
Voilà, on doit avoir des problèmes techniques. C'est ce qui, m'en excuse auprès de vous et auprès des auditeurs qui donnent l'impression que je vous coupe la parole. Justement, au cœur de cette retraite, est-ce qu'il y a, on va dire, un conseil de sagesse qui vous est monté, une réflexion profonde qui vous est montée dans le cœur et que vous avez envie depuis de partager avec vos fidèles et avec les auditeurs ce matin ?
Je reviens sur un point, c'est-à-dire que pendant tout ce temps de la Saint-Joseph au 24 mai, toutes les messes chaque jour étaient retransmises sur la chaîne YouTube du diocèse. Et j'avais des retours à ce sujet, donc j'étais vraiment en lien avec tout le diocèse et toutes les célébrations pascales aussi. Voilà. Pardon. Ce confinement m'a permis de voir que, et je l'ai dit aux prêtres quand je les ai retrouvés en direct, enfin physiquement, de voir qu'il fallait de plus en plus que nous distinguions l'essentiel de ce qui était secondaire. Et par exemple, des prêtres qui ont appris à prier à 3 ou 4 en visio, je leur disais, mais continuez, prenez ce temps, des vêpres par exemple, prenez un quart d'heure pour le faire. Donc ça, ce que ça m'a appris, c'est que nous devions davantage distinguer l'essentiel du secondaire. c'est-à-dire aller au cœur de notre mission, quelle que soit notre mission. Et c'est pour moi très important, et ça me permettra de rappeler cela aux uns et aux autres, et surtout de me le rappeler à moi-même. Voilà. Et puis également, c'est donc un regard sur le temps. Et deuxième point, c'est que nous avons davantage à présenter la mort dans nos enseignements, nos homélies, etc., parce qu'il y a une peur, même chez les chrétiens, une peur très forte d'affronter ce moment, et une peur qui confie dans la panique parfois. Donc il faut que nous resituions la mort dans la vie, et comme selon le mot de Thérèse d'Enfant Jésus, une entrée dans la vie. Voilà deux points sur lesquels je garde, je l'espère, une leçon de ce confinement.
Monseigneur Jean-Marc Echen, même question, on va dire, enfin deux questions dans une question. Ce confinement, voilà, comment vous l'avez vécu? Est-ce que il y a quelque chose que vous voulez nous partager de la manière dont vous l'avez vécu, de manière choisie ou forcée? Et puis vous, quel a été un peu le conseil de sagesse qui vous est monté au cœur et que vous avez que vous souhaitez aujourd'hui partager?
Oui, alors en lien avec ce que j'ai vécu, effectivement, un peu contraint au point de départ, puisqu'on n'a pas choisi, j'inviterai ceux qui souhaitent s'engager dans ce chemin-là, à dégager à nouveau dans leur vie des espaces de solitude et de silence. Parce que ces espaces-là sont des espaces extrêmement fructueux. Nous sommes assez habitués, nous avons revendiqué cela d'ailleurs, à la prière communautaire, au culte public, et donc communautaire, mais n'oublions jamais que ce culte public est ancré dans une relation personnelle avec Jésus-Christ, et cette relation personnelle, elle se cultive dans la solitude et le silence. Alors, ce n'est pas une solitude absolue, puisqu'elle est habitée par la présence de Dieu. Ça fait écho à Matthieu, au chapitre 6e, les versets 6 et suivants, c'est « Pour toi, quand tu cries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est dans le secret. » Ou ça pourrait aussi faire écho à une parole de sagesse de Pascal qui dit « Tout le malheur des hommes tient en une chose, qui est de ne savoir pas rester en repos dans une chambre. » Il y a vraiment dans ces espaces-là, et nous en avons fait, moi j'en ai fait l'expérience personnellement, quand la solitude et le silence durent un peu longtemps, il y a des choses qui remontent, qui étaient enfouies en nous, et en particulier cette présence intime au secret de nos cœurs de Dieu, mais aussi des souvenirs, alors des souvenirs douloureux, peut-être d'incohérence de nos vies, mais plus encore des souvenirs de grâce, du moment où le Seigneur est venu nous rejoindre, nous a saisis, a donné origine à notre appel le plus fondamental, à le suivre comme disciple de Jésus ou comme ministre ordonné. Et vraiment pour cela, nous avons besoin de ces espaces de solitude et de silence. Alors j'ai eu la chance, c'est malheureusement pas le cas de tout le monde, d'être dans un lieu préservé du bruit et de pouvoir avoir des espaces de solitude. Il y a des gens qui étaient confinés dans de petits espaces à plusieurs et c'était plus compliqué pour eux, ou dans des lieux qui ne permettaient pas d'être à l'abri du bruit du voisinage, du bruit de la rue. Mais quand il y avait cette possibilité, c'est vraiment une expérience très riche et qu'il ne faudra pas perdre, parce qu'elle nous apporte vraiment beaucoup.
Monseigneur Bernard Ginoux, dans sa lettre, Monseigneur de Moulin-Beaufort, donc la lettre précédemment citée, il invite les diocèses à prendre un temps de relecture dans les mois qui viennent sur cette période exceptionnelle. Comme pasteur, on imagine que vous êtes revenu en dehors de votre expérience à vous, de ce que vous nous avez dit, va dire de multiples choses vécues dans votre diocèse. Voilà, on peut avoir une vision justement parcellaire de ce confinement. Qu'est-ce qui vous a frappé, Monseigneur Bernard Ginoux, dans tout ce qu'on vous a partagé, et qu'est-ce qu'il est important de relire?
Je crois que la plupart d'entre nous, comme évêques, avons entendu ce que je vais dire d'une manière ou d'une autre. D'abord, quand les prêtres ont pu se réunir et que Pardoyenné, que je laissais écouter, j'ai entendu quand même que pour beaucoup, ça avait été un temps de grâce, de répit. Certains ont plus ou moins bien vécu le fait d'être seuls. Je reconnais que pour certaines célébrations, ils ont eu beaucoup de mérite de les tenir. Certains prêtres ont réalisé à quel point ils tenaient à la messe quotidienne, même quand ils étaient seuls, ce qui est heureux. Et puis également les liens avec les paroissiens. Il y a une découverte de certains que des paroissiens qui n'étaient pas spécialement connus comme être le comme devant être le premier cercle des prêtres du paroisse se sont manifestés à eux par téléphone, par message, donc ça, et qu'il y a eu quand même un effort de lien avec les paroisses. Et puis l'assistance aux personnes en fin de vie et aux défunts. Le fait qu'on ait pu célébrer toutes les obsèques dans les églises a été pour beaucoup une satisfaction de voir qu'ils apportaient un soutien aux familles en deuil, même si elles étaient très peu nombreuses, puisqu'il y avait la limite de 20 personnes. Donc découvrir aussi que, à travers le service rendu, à travers, dans certains cas, la participation à ce que les associations ont pu faire pour les gens démunis, tout cela avait donné un rythme à ce confinement, et dans l'ensemble, prêtres et fidèles en tiraient effectivement une leçon pour l'avenir. Mais en même temps, j'ai été 6 ans durant au aumônier d'hôpital. Souvent, les gens qui ont frôlé la mort ou qui sont très malades, quand ils s'en sortent, disent « Oh, mais je ne vais plus vivre comme avant ». Est-ce que c'est un vœu pieux ou est-ce que ça sera réalisé vraiment ? Là est la question. À commencer par moi, la question est pour moi, par rapport à la gestion de l'emploi du temps, par rapport au secondaire et à l'essentiel dont je parlais tout à l'heure.
Monseigneur Jean-Marc Eschen, vous, qu'est-ce que vous avez entendu maintenant ? Qu'est-ce qui vous est remonté ? Vous êtes comme évêque, faites partie des gens qui, on va dire, sont privilégiés parce qu'ils ont certainement beaucoup de remontées de terrain, comme on dit. On a pu entendre, enfin ce qu'on peut lire en tout cas dans la presse, quand on a peut-être moins de contacts que vous, c'est des choses un peu contrastées sur ce temps de confinement, qu'à la fois la majorité des Français l'auraient bien vécu, c'est une étude du Crédoc qui est sortie il n'y a pas très longtemps, et qu'en même temps, voilà, ça dépendait pour qui. Et que ce confinement, pour on va dire les plus modestes, a été aussi parfois plus violent ou plus difficile au regard de, on va dire, de l'espace que l'on pouvait avoir ou des possibilités de télétravail ou même de perte d'emploi. Qu'est-ce qui vous est remonté, Monseigneur Jean-Marc Eschen?
Alors c'est vrai qu'il remonte 1000 choses. Pour l'instant, on est encore en partie dans le confinement et puis un peu sonné par tout cela. Donc c'est parfois difficile un petit peu de faire le tri. Des chrétiens m'invitaient par exemple à rédiger une lettre pastorale de bilan sur le jour d'après, et je leur disais que je n'étais pas encore en capacité de faire cela. Néanmoins, il y a des choses qui effectivement sont exprimées ici ou là. Alors j'en retiendrai une ou deux, vous y faisiez allusion, Emmanuel. Effectivement, on s'est rendu compte que pour certains, en raison de leurs conditions de logement ou en raison de leur isolement, alors pour l'isolement, je pense aux gens dans les structures d'accueil des personnes âgées, les EHPAD en particulier. Pour les gens ayant des conditions de logement difficiles, je pense aux plus précaires, aux gens qui vivent seuls ou à quelques-uns dans un tout petit espace. Eh bien là, il y a un véritable enjeu. Cette période a révélé que ces conditions de vie n'étaient pas dignes. C'est-à-dire que nos personnes âgées sont parfois trop isolées, voire, entre guillemets, abandonnés dans des institutions, même si le personnel est plein d'humanité, tout à fait remarquable, mais abandonnés par la société dans son ensemble. Et d'autres sont abandonnés à des conditions de vie inhumaines dont on finit par se satisfaire. On peut malheureusement se satisfaire de tout, y compris de voir dans une des villes les plus riches du monde, à Paris, des gens dormir dans la rue, alors que tout près, il y a un chantier colossal avec des mobilhomes qu'on est capable de mettre en place pour abriter les ouvriers quand ils viennent travailler, et on n'est pas capable de ne pas laisser des gens dans la rue. Donc tout ça, c'est quand même très révélateur de maux qui marquent notre société. Et puis pour la communauté chrétienne, je noterai qu'effectivement il y a des gens que nous avons rejoints avec des moyens techniques modernes, en particulier avec les réseaux sociaux, via Internet, via des comptes YouTube, des chaînes, et qui nous disent Ce serait bien qu'à certains moments, parce que cela a été pour nous utile et objet de communion sur un ensemble plus vaste, comme le diocèse ou la France, ou même jusqu'à Rome, en suivant le pape, c'est utile pour nous, peut-être pas de manière aussi fréquente, mais d'avoir comme ça des moments où cette communion sera dite à travers les réseaux, ou à travers Internet, à travers la toile. Donc il y aura sans doute des choses à réfléchir là, pour d'autres réalités comme le culte. Effectivement, le culte en ligne, ça pose un certain nombre de questions, y compris théologiques, en particulier sur la théologie de l'Eucharistie et la théologie de l'Église, mais par contre, un lien, un partage de réflexion, une parole de sagesse, une manière de se saluer, même d'échanger de manière participative, avec la possibilité qu'offrent aussi là, les visioconférences de partager sa réflexion sur la parole, soit par la parole elle-même, soit par l'espace de dialogue écrit qui est proposé. Donc là, il y aura sans doute des choses, des outils nouveaux qu'on va apprendre à mieux utiliser.
Des choses à inventer. Ça n'est pas pour trop citer le président de la Conférence des évêques de France, mais je me permets, puisqu'on l'a pas eu, quand même de le citer à nouveau. Vous m'en excuserez, Monseigneur de Moulin-Beaufort, à propos du logement, qui souhaite que le mémorial de l'épidémie conduise à des investissements indispensables pour que chacun puisse avoir un logement digne qui puisse lui être une demeure. Pour reprendre ce si beau mot de demeure. On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver. Vous allez nous donner un autre conseil en cette fin d'émission pour cet été, une figure à fréquenter à l'occasion de l'été et probablement quelques pistes de lecture qui vont avec.
Dans la vallée du Lot, 92.5.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Déconfinement, la parole aux évêques, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin pour ceux qui nous rejoindraient. Nous sommes avec Monseigneur Bernard Ginoux, évêque de Montauban, et Monseigneur Jean-Marc Echen, évêque de Pamiers. Comme promis, dans cette dernière partie, Monseigneur Bernard Ginoux, je vous ai proposé donc de proposer vous-même aux auditeurs de fréquenter une personnalité au choix, un saint ou pas, à l'occasion de cet été. Vous avez choisi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Dites-nous pourquoi.
Ah ben, parce que d'abord, vous, parmi les plus personnes que vous proposiez, j'ai une attirance particulière pour la spiritualité de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus et du Carmel. Ensuite, parce que elle est confinée dans un Carmel, elle est très jeune. Vous me direz qu'elle est confinée par son choix, mais elle est très jeune. Elle va connaître l'épreuve de la maladie. elle connaît l'épreuve du quotidien sans cesse renouvelée dans la vie du Carmel, et elle donne à travers ses manuscrits autobiographiques qu'on a repris sur le titre L'histoire d'une âme, comment elle vit cette vie toute simple, toute ordinaire, dans le même lieu, avec les mêmes personnes. Elle parle de l'amour de Dieu, qui est premier, et qui l'aide à vivre sa vie. En même temps, elle le fait d'une manière heureuse. Elle a installé dans son cœur la miséricorde, qui est contraire à ce que une certaine spiritualité de l'époque enseignait, la crainte, le châtiment, etc. Donc elle est en communion avec le Seigneur, elle se fait tout petit enfant, et ça tout le monde peut le comprendre, peut le vivre. Ensuite, elle accepte l'autre, et Dieu sait si c'est difficile parfois de vivre en communauté avec des gens qu'on n'a pas choisis, et du matin au soir. Elle l'accepte comme l'autre, toujours selon la phrase de l'Évangile, faire aux autres ce qu'on voudrait qu'on nous fasse à nous-mêmes. Nous l'entendions hier en Saint Matthieu. Eh bien, donc c'est aussi par là qu'elle est un chemin, une voie, qu'elle appellera d'ailleurs la petite voie. Elle meurt très jeune, dans de grandes souffrances, d'une maladie qu'on ne peut pas soigner, et finalement, elle nous apprend aussi une attitude devant la mort. Donc c'est en cela qu'elle nous aide à tirer la leçon de ce que nous avons vécu et de tout ce que nous pouvons vivre un jour ou l'autre quand nous sommes menacés par un virus, par une maladie personnelle, par une situation difficile. Et elle nous apprend aussi à vivre de peu, mais à vivre d'amour, puisque c'est un de ses poèmes, et ainsi d'avoir une vie heureuse, parce qu'on sait que le Seigneur est là et qu'il nous accompagne toujours. Et c'est pourquoi il nous l'a choisi.
Est-ce à dire, Mgr Bernard Ginoux, que, pour faire écho à ce que vous disiez en deuxième partie d'émission, on est tous appelés en fait, à devenir un petit peu à vivre un peu au Carmel, comme on y a été contraint d'une certaine manière ?
Et bien, avec cet esprit, en tout cas. Bien sûr que nous sommes dans le monde et que nous avons à vivre les réalités du quotidien, mais avec cet esprit du Carmel, c'est-à-dire de retrouver l'hôte intérieur en nous, et puis de faire silence, ce que disait le père Mgr Echen, et également de pouvoir regarder le monde avec la pacification, la paix intérieure que nous donne le Seigneur, même quand ça va mal, et d'être un signe d'espérance. Encore une fois, pour montrer que cette espèce de panique qui s'est généralisée n'est pas de mise, qui a autre chose, et que nous sommes appelés à vivre. Voilà. C'est à vivre, pas seulement physiquement, à vivre pour toujours, et que notre vie sur Terre prépare notre vie à venir. Voilà, c'est pour ça que je choisis Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus.
Voilà, et on peut dire aussi que donc dans le diocèse de Montauban, il y a au sanctuaire de la Divine Miséricorde que vous avez donc voulu, il y a des reliques de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est bien ça, hein ?
Exactement. Et puis, nous avons chaque année une trentaine de personnes à l'école d'Horizon que conduisent les carmes de Toulouse. Voilà.
Monseigneur Jean-Marc Echet, pardon, excusez-moi, Monseigneur Ginoux, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Très bien, ça va. Si c'est la dernière intervention, j'allais dire au revoir, mais...
Ah non, vous avec nous, je vous redonnerai la parole, on n'a pas fini l'émission, Monseigneur Jean-Marc Echen. Monseigneur Jean-Marc Echen, vous avez choisi Saint François d'Assise, alors vous avez choisi donc tous deux, on va dire, des géants. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Saint François d'Assise ?
Alors, François d'Assise, parce que, bon, déjà, quand je faisais allusion tout à l'heure à cette période un peu d'intériorité, de solitude qui fait remonter des choses de notre histoire, et je me suis remémoré le fait qu'un des personnages marquants dans mon adolescence, enfin j'avais 17 ans, encore adolescent à 17 ans, a été François d'Assise, et en particulier à travers une lecture d'une vie romancée de François d'Assise, celle de Félix Timmermans, lecture qui nous avait été conseillée pour préparer un voyage à Assise. Et vraiment, j'ai été saisi par le Christ à travers ce personnage, et ce saisissement ne m'a pas abandonné jusqu'à aujourd'hui. Et je me disais que dans cette période particulière de l'histoire de notre humanité, cette période contemporaine, en lien avec l'encyclique que nous adressait le pape François il y a maintenant 5 ans, Laudato Si, qui prend François d'Assise comme figure de référence, bien nous avons sans doute des lumières à puiser dans sa spiritualité. Alors il n'était pas proprement parlé confiné, parce que c'était vraiment un missionnaire itinérant, un mendiant sur les routes pour aller annoncer l'évangile, mais à travers son choix de vie sobre, cette fraternité universelle avec l'ensemble des créatures et avec les plus pauvres, vraiment on rejoint cet appel du pape François à nous établir en relation avec Dieu et à entendre le cri de la terre et des créatures et le cri des pauvres. Et je crois que cet appel à une vie sobre pour préserver aussi notre mère la terre résonne d'une manière particulière et que si nous avons l'occasion de nous pencher sur la spiritualité de François d'Assise, alors il y a de nombreux ouvrages, évidemment peut-être le plus marquant, le plus connu, c'est celui d'Éloi Leclerc, Sagesse d'un pauvre, mais il y a aussi la vie de François d'Assise, frère François de Julien Green, ou encore le Trébat de Christian Bobin. En tout cas, les ressources ne manquent pas, mais vraiment, c'est une spiritualité tellement actuelle que moi encore, même quand je parle de lui et que je me réfère à ce livre qui a marqué ma jeunesse, je suis encore saisi d'émotion et je me dis, mais oui, c'est cet appel-là qu'il nous faut entendre et qu'essaie de relayer auprès de nous le pape François.
Voilà, le pape François qui en a parlé à de multiples occasions. Je citerai juste une homélie lorsqu'il est allé à Assise en 2013. La première chose, la réalité fondamentale qu'il nous donne en témoignage, et ceci, être chrétien, c'est une relation vitale avec la personne de Jésus. C'est se revêtir de lui, c'est s'assimiler à lui. Et puis un petit peu plus loin, le pape François, plus taquin, la paix franciscaine n'est pas un sentiment doucereux. Ce n'est pas une espèce d'harmonie panthéiste, laissant entendre que c'est d'abord une union profonde donc avec le Christ. Pour finir, Monseigneur Ginoux, juste pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'est-ce qu'on fait, hormis la prier ou venir au sanctuaire de la Divine Miséricorde à Montauban? Quelle lecture?
On lit l'histoire d'une âme, c'est le plus simple, et ça se trouve dans toutes les librairies, à la procure à Montauban en particulier, au 102 du Faubourg de la Capelle, et puis c'est un livre qu'on peut prendre, laisser reprendre, sans compter la suite de ce qu'on a publié de Thérèse, en particulier ses lettres, mais aussi tout ce qui a été écrit sur elle. Il y a de nombreux ouvrages, par exemple avec le père Pierre d'Escouvemont, on trouve ici une initiation à la spiritualité de Thérèse de l'Enfant Jésus. Il y a beaucoup d'ouvrages qui sont construits autour de cette petite voie de l'enfance spirituelle.
Donc, histoire d'une âme, et puis pour Saint François d'Assise, j'en reciterai juste quelques-uns que vous avez cités, Monseigneur Echène. Sagesse d'un pauvre, c'est d'Éloi Leclerc. Frère François, c'est de Julien Green. Et Le Trébat, c'est donc de Christian Bobin. Autre livre que l'on a cité au début de cette émission, que l'on peut parcourir, c'est donc cette lettre du président de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, Le matin sème ton grain, paru aux éditions Bayard, Mam, Le Serre. Et puis, pour finir, une dernière mention, le pape François qui a déclaré donc une année Laudato Si, et les évêques de France qui ont lancé un webzine d'écologie intégrale. C'est donc à retrouver sur un site dédié pour ça de la Conférence des évêques de France, tout est lié.catholique.fr. Merci beaucoup, messeigneurs, d'être venus ce matin au micro de Vivante Église pour nous partager quelques conseils de sagesse au sortir de ce temps de confinement. Merci à vous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.